L'esprit critique. Mediapart.
Présence arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988 est le titre de l'exposition qui a ouvert le 5 avril dernier au Musée d'art moderne de Paris et qui sera visible jusqu'à la fin août. 200 œuvres, 4 sections et 3 commissaires d'exposition, Morane Montazami, Madeleine de Colnay et Odile Burlureau, proposent ici une impressionnante traversée du XXe siècle en forme de relecture de l'histoire de l'art moderne, où l'on croise des peintres connus et des artistes méconnus, de l'orientalisme arabe, du surréalisme égyptien et même les œuvres du chirurgien de Saddam Hussein. L'exposition commence en 1908, année de l'arrivée du poète libanais Khalil Gibran à Paris et de l'ouverture de l'école des Beaux-Arts du Caire, et se clôture en 1988 avec la première exposition consacrée à des artistes contemporains arabes à l'Institut du Monde Arabe inaugurée quelques mois plus tôt, mais aussi 1988, symboliquement l'année où Yasser Arafat proclame la création de l'État palestinien. Alors sans doute faut-il commencer avec une vision d'ensemble de cette exposition qui tient les deux bouts d'une pédagogie très solide, tout en refusant l'austérité parfois à l'œuvre dans ce genre d'exposition assez pointue. Est-ce que vous l'avez trouvé, comme moi, à la fois maîtrisé dans la forme et dans le fond, à la fois libre et très tenu, Magali Le Sauvage ?
Alors oui, en effet, assez libre et tenu, avec 130 artistes qui sont, pour la plupart, assez peu connus, je pense, du public français. Et c'est une expo qui est très compartimentée, qui est très segmentée en chapitres, en sous-chapitres, donc qui permet de comprendre très bien tous ces des contextes géographiques qui sont quand même très différents de la Tunisie à l'Égypte, au Liban. Donc ça, je pense que c'est très important parce que la contextualisation est vraiment nécessaire et surtout qu'on touche beaucoup à des sujets très politiques, évidemment, puisque toutes ces 8 décennies, en fait, sont aussi les 8 décennies d'une lente décolonisation. Alors, décolonisation réelle, indépendance des pays, mais aussi décolonisation des esprits, si on peut dire.
Et des imaginaires
qui n'est évidemment pas encore terminé, mais voilà, qui a eu lieu tout le long de ce siècle. Et donc, je crois que c'est important. On sent derrière qu'il y a un travail donc très important qui a été fait par ces deux chercheurs, Morane Montazami et Madeleine de Colnay, qui sont les fondateurs de Zaman Books and Curating, donc qui sont des éditeurs et qui organisent des expositions et qui font depuis des années un travail de recherche et d'édition, de publication sur ces artistes et dont on voit ici le résultat du travail, enfin une infime partie finalement du résultat de leur travail, parce qu'il faudrait faire une exposition sur chacun de ces pays, sur chacune de ces scènes culturelles. Là, je trouve que le foisonnement de l'exposition ne gêne pas la lecture, que le propos est assez bien tenu, avec des œuvres en fait qui sont très, comment dire, emblématiques. C'est-à-dire que de chacune des œuvres, on peut tirer un fil, on peut raconter l'histoire d'un artiste, d'un destin, d'une famille, voilà, d'un exil ou pas. Enfin, c'est vraiment humainement aussi extrêmement riche et je trouve que c'est assez bien organisé de ce point de vue.
Margot Nguyen, à peu près la même question sur cette capacité à synthétiser tout en ne réduisant pas ça à des grandes structures où on ne verrait plus que les structures.
Tout à fait. Et la sensation de traverser 80 années d'histoire sans être jamais écrasé en fait par le poids de l'histoire, mais vraiment en veillant. Enfin, je trouve que le point de force de l'exposition est bien que les œuvres d'art et l'histoire de la représentation vient jouer comme des notes sur une partition et que le partitionnement historique, enfin l'articulation entre histoire et histoire de l'art est extrêmement bien structurée et présentée. Et donc on a d'emblée cette triple frise chronologique qui nous accompagne au long des 4 chapitres de l'exposition, mais aussi une vraie variation dans la scénographie avec des simèses plus focus sur certains artistes, les simèses colorées, qui sont comme des rappels qui viennent mettre en lumière les travaux de certains artistes, des espaces de documentation qui sont là aussi extrêmement judicieux. Et je trouve qu'on atteint un équilibre vraiment entre choix des œuvres, discours historique et rentrer dans le détail de certaines idées. Et tout ça crée un équilibre qui crée une exposition extrêmement convaincante et jamais écrasante par son érudition, en fait.
Et ça, c'est pour la nature, je dirais, de l'exposition en tant qu'exposition, mais on peut dire peut-être quelque chose d'assez parallèle vis-à-vis du discours qui est tenu sur des œuvres qui sont, comme vous l'avez dit, Magali Le Sauvage, prises dans une longue histoire de colonisation et de décolonisation incomplète, mais avec, sans aucun irénisme, c'est-à-dire qu'on est, on entre avec une photo de massacre au Liban qui est là présente dès l'entrée du visiteur, mais en même temps, c'est pas purement de la dénonciation, de l'accusation, ça montre aussi cette histoire, elle a été faite de beaucoup d'allers-retours, de regards appropriés, désappropriés, aussi d'une forme de complexité de relationnel prise dans un cadre colonial, évidemment, dont la violence n'est jamais masquée, mais il me semble ne se contente pas, voilà, comme certains types d'expositions décoloniales, d'être dans la dénonciation.
Non, et puis je crois ce qu'on voit bien dans les œuvres aussi, c'est la complexité des identités elles-mêmes qui se traduit, vous parlez de l'orientalisme arabe tout à l'heure, qui peut paraître un paradoxe.
Oui, alors ça, c'est une notion assez étrange. C'est en fait, ce qu'il dit, c'est l'Orient rêvé par lui-même, mais ce n'est pas une notion effectivement qu'on trouve chez Edward Said.
Non, mais parce que l'orientalisme, c'est donc un mouvement artistique qui naît au 19e siècle et qui est purement européen, c'est-à-dire que c'est le regard des Européens sur l'Orient, entre guillemets, bon, l'Orient, c'est un terme assez vague aussi, et qui fantasme l'Orient, l'Orient riche, l'Orient érotisé également. Et donc, en fait, c'est cet orientalisme qui est réinterprété par des artistes arabes et non pas des artistes arabes qui regardent la réalité de leur propre monde. Donc, après, on comprend aussi que cette espèce de fantasme du fantasme, enfin voilà, on est dans quelque chose qui, quand même, est assez troublant dans l'espèce de fantasme au carré, en fait, en quelque sorte, de l'Orient. Il vient aussi du fait que ces artistes sont venus étudier, pour certains, en France, ou que les écoles aussi du Caire, de Beyrouth, qui se créent au XXe siècle, sont calquées sur les modèles des écoles des beaux-arts européennes. Donc, en fait, les professeurs même viennent aussi d'Europe. Donc, ces artistes sont aussi éduqués, entre guillemets, à un regard européen. On voit ça aussi en Afrique subsaharienne, d'ailleurs, à la même époque. Et donc, forcément, non pas qu'ils renient complètement leur culture, mais forcément, ils veulent aussi coller, d'ailleurs aussi pour des raisons de marché de l'art, ils veulent aussi coller à une certaine esthétique qui est celle de, soi-disant, celle de l'art moderne, ce que devrait être l'art moderne. Donc, on est dans quelque chose de très complexe d'un point de vue d'identité. Et effectivement, du coup, les revendications politiques, là-dessus, elles sont pas forcément nécessairement lisibles dans ces œuvres-là, parce que ça peut venir chez certains artistes. Pour d'autres, non, ils veulent finalement coller à un canon. Et ils le font de manière assez...
Oui, du coup, on se retrouve avec des artistes arabes, finalement, peignant avec un regard quasiment occidental ou orientaliste. Et inversement, on découvre aussi, en France, la diversité des regards portés. Parce que donc, c'est centré sur des artistes qui sont passés par Paris. Hein, c'est un peu ça l'idée, que ce soit de manière éphémère ou plus permanente. Dont certains... En fait, continuent d'épouser l'orientalisme. Certains s'approprient quasiment les œuvres, et puis certains demeurent vraiment critiques. Et c'est là que la circulation politique artistique est aussi bien mise en œuvre dans l'exposition.
Tout à fait. Et c'est intéressant de penser aussi. Je trouve que l'exposition célèbre vraiment la question des mouvements. Enfin, et donc de ce mouvement transculturel et d'aller-retour, et aussi de voilà, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement artistique. Et en ça, la section sur le surréalisme égyptien et ce mouvement qui s'appelle Art et Liberté m'a particulièrement marquée, parce que cette digestion du surréalisme, réinterprétation, enfin, qui produit un mélange absolument singulier et extraordinaire, en fait, je trouvais une très très bonne illustration de la complexité de ce que c'est un mouvement artistique.
Oui, comment c'est pas une fusion au sens dans lequel on peut faire, mais vraiment des formes de circulation très précises. Il y a cette figure complètement étonnante de cette militante marxiste et surréaliste égyptienne qui s'appelle Inji Eflatun. C'est ça aussi que l'exposition donne un peu envie, c'est de singulariser quelques figures. Alors, il y en a tellement, mais je sais pas lesquelles vous garderiez avec vous. Il y a cette autodidacte algérienne surnommée Baya qui avait été en partie récupérée par Breton. Il y a moi cette Valentine de Saint-Point, militante anticoloniale dès le départ, que je connaissais pas du tout. Enfin, quelle figure vous auriez envie de distinguer? Et vous avez bien dit, il y a 130 artistes. Donc là, on va pas être exhaustif ou roboratif.
Bah, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, et des commissaires d'ailleurs de l'exposition ont beaucoup insisté là-dessus. Il y a Inji Eflatun, effectivement, dont on voit des gravures qui sont un peu, effectivement, très influencées par le surréalisme, qui sont vraiment extraordinaires. Moi, c'est une artiste que je ne connaissais pas. Baya, qu'on avait revu à l'Institut du Monde Arabe. Des artistes plus connus d'aujourd'hui comme Mona Hatoum. Il y a Huguette Calland aussi, qui fait d'ailleurs l'affiche de l'exposition. Donc, cette peinture abstraite avec ces espèces de formes un peu diluées comme ça, dans des couleurs claires. Il y a Leila Mouraïwid, qui fait ces espèces de dessins très très étrange, onirique. Vous avez une réunion de famille avec un cochon au milieu sacrifié. Enfin, c'est des scènes de cauchemar qui peuvent évoquer des images d'exil, mais d'exil douloureux. Il y a Etel Adnan, qui est déjà bien connue, mais à laquelle est consacrée une petite salle avec les porello qui sont magnifiques.
Alors ça, il faut expliciter un peu, parce qu'elle est bien connue, mais néanmoins, certains ne connaissent pas. Donc, c'est une poète, peintre libanaise, auteur notamment d'un texte qui s'appelle L'Apocalypse arabe. Et donc, toute une salle est consacrée, qui faisait des livres dessinés en même temps écrits, quoi.
Bah, qui faisait des peintures et qui faisait aussi... Donc, les leporello, en fait, ce sont des sortes de longs papiers comme ça qu'on peut déplier et qui sont en fait comme des espèces. Effectivement, c'est un mélange de peinture et d'écriture. Il y a notamment, il y en a un très beau où elle représente les toits de Paris. On dirait un petit peu comme des pictogrammes. Enfin, voilà, on est entre l'écriture et la peinture. Et ce mélange-là est très beau. Et ces poèmes sont également, on peut les entendre dans l'exposition. Ils sont aussi récités. Et donc, voilà, moi, je voulais aussi dire qu'on voit beaucoup de femmes. Il y a aussi cette sculpture assez incroyable d'une femme kabyle, une sculpture en bois qui appartient aux collections du musée du Quai Branly, qui est une œuvre de Rabah Mellal, qui n'est pas exposée au musée du Quai Branly et qui est une sculpture qui ressemble un peu à une sorte de cariatide, en fait, de femmes simples.
C'est une grande sculpture en bois de plus de 2 mètres, assez impressionnante.
Assez impressionnante, qui se tient très droite, les bras croisés. Donc, on sait par la documentation que c'est une figure de résistance, mais voilà, plutôt une figure de résistance passive. On sent qu'elle est là, elle a les bras croisés, le regard bien fixé et elle attend. Et cette sculpture, c'est intéressant de savoir qu'elle est conservée au musée du Quai Branly, mais qu'il ne la montre pas, parce que je pense que c'est une œuvre qui n'est pas dans le discours en fait de ce musée-là, ou dans la section Maghreb du musée du Quai Branly, vous avez les magnifiques bijoux, vous avez la vannerie, etc. Mais on ne va pas vous montrer une œuvre d'une artiste, ça c'est une œuvre des années 40, on ne va pas vous montrer une œuvre comme celle-ci.
Oui, en ça c'est une exposition totalement anti-folklorique,
exactement.
Du musée d'art moderne.
Et c'est vrai qu'il faut célébrer ce travail de recherche en fait, dans les collections nationales.
Et notamment dans les réserves, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres, c'est ça qui était marquant. On a fait la visite avec les commissaires d'exposition, à quel point beaucoup des œuvres qu'on voit là étaient dans les réserves des musées. Il y a aussi plein de collections privées, enfin,
mais d'œuvres,
mais n'ont jamais été montrées.
Parce que les œuvres correspondent à une histoire non discutée, non exploitée, non montrée. Et du coup, on découvre des peintures des collections de l'Institut du Monde Arabe, des œuvres de la Cité de l'Immigration, du Musée des années 30, du CNAP, du Quai Branly, comme tu l'as dit, Magali. Et du coup, c'est aussi une réévaluation de ce que les collections ont à dire, quoi, et ont à montrer. Et donc, en ça, ça ouvre des perspectives très riches.
Et vous, pour vous poser la même question, on sentait dans la réponse de Magali Le Sauvage la profusion de cette exposition. Vous, si voilà, vous deviez en donner à voir quelques-unes.
Et pour continuer dans cette idée de mouvement et d'action de groupe, j'ai trouvé que ça laissait la place aussi à la visibilité pour ce type d'action. Et j'ai été très marquée par le fait, parce que j'ai appris durant cette visite, que donc en 1931, pendant l'exposition coloniale internationale de Vincennes, il y a eu des happenings anticoloniaux qui se sont déroulés en même temps au parc de Vincennes. Et je trouve très émouvant en fait que c'est une constellation d'artistes et d'âmes individuelles, de singularités individuelles. Mais il y a aussi la place qui est laissée à des initiatives de groupes. Le groupe Aouchem, qui veut dire tatouage, qui est un groupe d'artistes algériens et algériennes, dont Baya faisait partie, est évoqué. Aussi la commande d'affiches de l'OLP, où on découvre des magnifiques affiches dans les années 80, qui sont donc réalisées par des artistes palestiniens, palestiniennes. Et je trouve que la place qui est laissée aussi à l'énergie de groupe et à la réflexion intellectuelle de groupe et à l'échange est quelque chose de très intéressant dans cette proposition.
Il y a aussi, on voit quand même au fil de l'exposition que le politique et la volonté de montrer la réalité en fait de ce que c'est que le combat décolonial et de ce que c'est aussi que la lutte contre les empires s'accentue aussi au fil des années, parce qu'on termine quand même sur, alors il y a beaucoup d'œuvres graphiques très belles sur la lutte palestinienne par exemple, mais aussi sur les violences policières en France.
Avant cela, sur quand même la guerre d'Algérie qui fait rupture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tableaux là qui sont montrés, qui font écho à cette histoire-là. Enfin, on sent qu'il y a une présence de la violence qui s'accentue au moment de cette exposition.
Voilà. Et là, on n'est plus dans... il n'y a plus d'orientaliste arabe. On n'est plus dans quelque chose où on va essayer de créer un monde qui pourrait éventuellement être harmonieux. Là, c'est terminé. Il y a une violence, en fait, qui surgit vraiment après la guerre, enfin, à partir des années 50-60, très forte. On termine avec le clip de carte de séjour du groupe, le groupe de Rachita, où on voit bien les violences policières. On voit aussi un immeuble de la Courneuve qui est abattu dans les années 80. Donc, c'est aussi cette violence...
Un immeuble de la cité des 4000 qui ont choisi de faire imploser, en gros, parce qu'on ne sait pas régler le dixit problème des banlieues, et donc on fait exploser les immeubles.
Mais c'est vraiment voilà, une image de l'échec en fait, des politiques aussi françaises qui ont voulu régler la décolonisation sur le sol français et qui l'ont très mal conçu. Et donc ça, plus ça va, plus quand même on arrive dans des images violentes, et surtout les artistes qui peut-être sans doute étaient censurés aussi peuvent aussi montrer ça et le manifestent et le montrent aussi à un public français qui le reçoit et qui y répond. Et donc ça, c'est important.
Présence arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988. C'est donc à voir au Musée d'art moderne de Paris jusqu'au 25 août prochain.
L'esprit critique. Mediapart.